Bonsoir.
Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Radio G, il est 22h, je m'appelle Fahadi, ou Di pour les intimes et les habitués, j'espère que vous allez bien et je suis accompagné de Juliette ou Ju. Salut Ju.
Merci, bonsoir à tout le monde, on est très heureux ce soir de retrouver avec nous Péta. Bonsoir Péta. Tu es toujours en pleine écriture de ton spectacle Appelez-moi Péta et tu joues toujours dans le spectacle Parlez-moi de, c'est
oui,
ça?
C'est ça.
Super.
On est aussi ce soir avec Yo-Yo, coucou Yo-Yo.
Coucou.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va super?
Ça va super.
En forme, le 21 octobre dernier, tu as joué ton spectacle La très excellente et très pitoyable tragédie de Juliette et Roméo à la salle Jean Carmet à Mur-et-Rigné. Comment ça s'est passé?
Bah super bien, on a eu des très très bons retours après ce spectacle. On est passé encore dans le Courrier de l'Ouest. Donc c'est cool, on commence à avoir un petit réseau presse sympa.
Une nouvelle date peut-être en approche?
On sait pas encore là, parce qu'on a fait une programmateur justement pour mettre des dates, donc on va voir.
Ok, et donc tu retournes directement sur scène puisque le 19 novembre prochain, tu joues Ganivelle avec la compagnie La Galerie et ce sera au 122, le tiers-lieu culturel Boulevard
Chabois. Plus maintenant, malheureusement. Alors oui, on joue, mais en fait, ce sera un show privé, tu vois.
Ah, d'accord. Okay.
Ouais, en fait, on a annulé avec le 122 pour des raisons vraiment purement techniques.
Okay.
Donc, ça ne sera pas à ce moment-là, mais on espère pouvoir le mettre en place un peu plus tard. Mais ce ne sera pas le 19, du coup, au 122, mais prochainement.
Ok, bah tu nous tiens au courant en
yes,
tout cas.
Et bah oui. Et en tout cas, c'est un grand plaisir aujourd'hui que nous accueillons les invités de ce soir car ils sont deux. Tariq Ben Salah, bonjour.
Salut.
Et Simon, c'est comment déjà ton nom?
Loretti, salut.
Simon Loretti. Tu veux nous dire ce que Tariq fait dans la vie et
bien
ce que Simon fait dans la vie?
Tariq est réalisateur. C'est ça. Donc, de films, j'ai vu des trilogies, des huis clos, on en parlera plus tard. Et Simon est comédien.
Et metteur en scène.
Et bah oui, forcément. Et metteur en scène, c'est pareil, on en parlera tout à l'heure.
Dans notre salon ce soir, on vous partage les petites habitudes de l'autre hein, chez Judy. On va vous emmener dans un lieu assez particulier, dans un domaine assez particulier avec Yo-Yo. On vous explique le moment où vous devenez adulte selon les termes de Péta. Et pendant l'émission, avec Tariq et Simon, on discutera du métier de réalisateur et on essaiera de savoir si on peut réaliser un film de A à Z en étant novice. Une soirée bien mouvementée à laquelle vous pouvez réagir sur l'Instagram @chez-judy ou sur le site internet radio-g.fr à la rubrique Dans le salon de Judy.
Et bien avec ce beau programme, on vous souhaite la bienvenue dans le salon de Judy et avec cette petite musique qui s'intitule Nana de Yendri, vous vous installez bien comme il faut, comme nous, et à tout de suite sur Radio G.
La calle la ve con el pelo negro largo se va. Ella corta la mirada otra vez. Los tigres no la dejan pasar. Ay, mi nena, te me libren de los malos ojos. Que siempre puedo hacer lo que tú quieras. Le pido al cielo que te dé mi angelito te mando,
nena.
Le pido al cielo, le pido,
nena.
Los angelitos te mando,
nena.
Le pido al cielo, le pido. Te veo mi sueño, abro los ojos, te quiero matar. Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado.
No me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Ay, mi beba, te me libran de los malos ojos. Son las estrellas las que te aconsejan. Que el viento te lleve donde tú quieras.
Ah, nena, los angelitos te mando.
Nena,
le pido al cielo, le pido.
Nena,
los angelitos te mando.
Le
pido al cielo, le pido.
No me quedo nada.
nena. Los angelitos te mando, nena. Le pido al cielo, le pido, le pido.
Nena sur Radio G avec le titre Yendrick. Nena, c'était un titre qu'elle jouait durant le Color Show, la chaîne YouTube, ou en tout cas la structure qui permet de faire passer des artistes sur un fond unicolore. De retour sur Radio G, donc dans le salon de Judy avec Yo-Yo, Peta, Juliette et nos invités Tariq et Simon. D'ailleurs, Tariq et Simon, on sait que dans vos métiers de réalisateur ou metteur en scène, pardon, il n'y a pas trop de place pour les temps morts ou pour les moments inutiles. Mais ici, dans le salon de Judy, on n'a pas le choix de subir la minute inutile de Juliette.
Oui, effectivement, et le cinéma ne déjoue pas à la règle, lui aussi va avoir son petit moment inutile. Parce que j'ai appris pas mal de choses. Premièrement, bon, tout le monde connaît Harry Potter. Ça va?
Non.
Bah, tire à voir. Non.
J'adore.
Eh ben, savez-vous que par exemple la scène du Magicobus, c'est la scène où Harry va dans un bus et il va super vite et il rate ici, etc. Enfin bref, a été tournée en fait dans un décor tout à fait naturel, mais au ralenti. Donc en fait, pour donner l'illusion que le véhicule magique se déplaçait à 150 km à l'heure dans les rues de Londres, et bah en fait, il roulait que à 50, les voitures à 12, et les passants en fait qu'on aperçoit sont des cascadeurs entraînés à marcher très très lentement pour la crédibilité de l'effet.
Trop bien.
Oh, wow.
Stylé de ouf.
Donc voilà, c'est un petit peu stylé, mais c'est totalement inutile à savoir. Au cinéma, on le sait tous, il y a beaucoup de faux-semblants, mais il y en a aussi qui déçoivent plus que d'autres. Quand par exemple, on apprend que dans tous les James Bond où a joué Sean Connery, il portait une moumoute sur la tête pour avoir une plus belle chevelure. Voilà, ça casse un peu le mythe de James Bond.
Il portait une perruque du coup, en
exactement,
fait.
Voilà. Ça casse le mythe de James Bond, faut l'avouer.
Yes.
Mais c'est pas grave. Il s'avère aussi quand même que des fois les acteurs se donnent réellement à corps perdu, comme par exemple, je vais le dire mal, je le sens, Christian Bale.
Christian Bale.
Oh, sorry, yeah. Dans The Machinist, qui avait donc un rôle pas évident à jouer et pour lequel il a perdu 30 kilos en 3 mois, ce qui est vraiment impressionnant. Bon, il était suivi bien sûr par des médecins. Et en fait, il voulait tellement pousser la transformation que les médecins lui ont ordonné d'arrêter son régime, qui quand même était basé exclusivement de café, pommes et clopes pendant 3 mois.
Wow.
Voilà, c'est...
Le mec a une vie méga saine.
Ah bah là...
Et après, tu vas en faire plusieurs des films, mais en fait...
Okay.
Ou, par exemple, après, c'est des exemples hein, vraiment parmi tant d'autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Dans Harry Potter, on retourne pour se préparer au mieux pour le tournage de L'Ordre du Phénix. Daniel Radcliffe s'est entretenu avec des psychologues pour se renseigner sur le syndrome du survivant, en fait, afin de comprendre la culpabilité que Harry avait ressentie après la mort de Cédric Diggory, enfin voilà, et tout un truc. Celui-ci, il a même rencontré des personnes ayant souffert de traumatismes afin de rendre en fait son personnage crédible. Il y a eu tout un processus de dingue, voilà. Et en vrai, ça c'est un simple comparé à tout ce qui peut se passer pour un rôle et être crédible dans le rôle. Il y a vraiment beaucoup de choses. Après, du côté français, on n'a pas forcément la même classe. On retourne le 17 août 2011 où Gérard Depardieu a fait un scandale en urinant dans une cabine d'avion. Voilà, donc c'est déjà beaucoup moins classe, hein, la classe française. Donc en partant pour l'Irlande où il allait tourner Astérix et Obélix, les Jeux Olympiques, je crois bien. Et en fait, la société Ryanair a proposé de sponsoriser du coup une course de chars sous le nom de Ryanairus pour en fait, voilà, en modifiant du coup le scénario, pour que il y ait pas de problème en fait entre la compagnie de vol et le fait que bah ils tournent un scénario, etc. Enfin voilà, comment tourner en dérision le comportement décalé de certains acteurs. Enfin bref, voilà, je vous l'avais dit, c'est pas la même chose la classe française et la classe américaine. Bref, pour finir, j'ai appris deux choses. C'est que dans Retour vers le futur, la première ébauche du scénario proposait, pour ce qui devait faire office de machine à remonter le temps, un réfrigérateur. Beaucoup moins classe.
Ah.
Et en fait, l'idée fut totalement abandonnée. Et pas parce que voilà, c'était pas classe, ou pas parce que non. C'est juste que en fait, Spielberg avait peur que des enfants ne grimpent dans leur réfrigérateur pour imiter le film et du coup se piègent à l'intérieur. Enfin voilà, il y avait tout un truc. Donc voilà, ce qui me semble assez logique parce que moi, étant petite, j'aurais pu avoir l'idée de me mettre dans le réfrigérateur et d'essayer de partir. Donc voilà. Et deuxième chose, j'ai appris qu'il n'était jamais trop tard pour finir ses études, comme Steven Spielberg, qui en 2002 a enfin terminé son cursus universitaire après une pause de 33 ans. Et il a rendu quand même la liste de Schindler.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Comme projet de fin d'études qui est quand même genre assez classe.
Oh la vache.
Ouais. Et ben voilà, c'était des minutes inutiles sur le cinéma.
Ouais, une petite inutile comme ça, mais ça fait toujours plaisir, une petite minute inutile dans cette émission. J'arrive pas à le dire, une petite minute inutile. Vas-y, yo-yo.
Minute... Ah ouais, d'accord. Minute inutile, minute inutile, minute inutile.
Des exercices voilà. D'élocution ici, donc, PETA. Petite minute inutile.
Petite minute inutile.
Waouh, ah, Tariq et Simon.
Petite minute inutile.
Oh,
c'est beau, c'est beau.
C'est trop mignon. Et d'autres.
J'ai cru qu'ils allaient s'embrasser.
Après, il faut savoir qu'ils ont un micro pour deux, donc peut-être qu'il va y avoir un rapprochement de ces deux belles personnes. Des moments inutiles, on en retrouve aussi dans le quotidien. Par exemple, quand on rentre du travail et qu'il n'y a pas de bruit à la maison et qu'on surprend Juliette en train de faire son meilleur pas de samba en préparant du thé. Ça peut être un moment inutile aussi.
Ah oui, tu balances ça direct.
Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça.
Et
ça
bah, pas. Dans ce cas-là, moi aussi, je peux dire que te surprendre dès le réveil en train de faire du tai chi sur une musique de Sia, c'est pas anodin.
Ah oui, bah attends, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire un
ah
petit
non,
truc
mais attends,
rajoute...
c'est pas fini. Bah oui, non, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que quand tu zouk sur une chaise avec du taïk, ça aussi, c'est un cadeau de la vie, tu vois. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à te voir zouker.
Mais je peux essayer d'ajouter
ah
d'autres
choses. Attends, attends, c'est pas terminé. Tu prends tes rêves pour la réalité, là. Accrochez-vous bien. On vous a dit qu'il jouait dans Codoria, c'est un jeu grandeur nature où il est sorcier. Et bah sachez que 2 semaines avant, il s'entraîne à lancer des sorts. C'est pas des sorts genre Wingardium Leviosa. Non, que nenni, pas du tout. Il crie dans le salon, lancer de boule. Ah. Voilà, 5 fois d'affilée, avant de tournoyer, et ce pendant des heures et des jours. Voilà. À ce moment-là, je me dis que je t'aime vraiment très très fort.
Mais t'étais là à chaque fois que je faisais ça, là.
Bah, c'est un peu dur de te louper, surtout que tu fais ça pendant 15 jours, quoi. Et 3 fois par an.
C'est vrai, c'est
on
vrai.
On habite ensemble.
Je t'assure que moi, je suis dans ma bulle et j'ai l'impression que personne ne me voit.
Ah,
okay,
lancer de boule.
Je ferai attention la prochaine fois. C'est vrai, de toute façon, c'est un peu dur de louper Juliette décorée de son meilleur dentifrice en plein visage. Et j'arrive dans la salle de bain, sa seule justification à ça, c'est pour que mes boutons ils partent plus vite. Est-ce que tu viens me faire un bisou? Bah non, meuf. Non, je viens pas te faire de bisous parce que c'est moche et c'est un peu digue. Autre chose, comme madame a tout déballé, hein, pour ceux qui arrivent dans le salon de Judy, déjà bonsoir et bienvenue. Sachez que Juliette est chanteuse en plus que comédienne. Et pour conserver sa voix lors des chants, je la surprends régulièrement, munie de sa brosse à cheveux et chantant son meilleur karaoké. Je sais pas chanter. Je t'improvise comme je peux. Et c'est pas tout. Moi aussi, je vais continuer à balancer. Car à tout moment, en tant que chanteuse, elle peut avoir une audition. Et qui dit audition dit préservation de la voix. Ah bah là, les amis, je vis tout seul. Hein. Enfin, je vis tout seul. Je vis avec quelqu'un qui communique par ardoise Velleda, une sorte de personne cachée au fond de 3 kilos de vêtements chauds, avec une petite main qui sort de temps en temps en écrivant « Est-ce que tu peux m'apporter un cappuccino, s'il te plaît ?» Et puis une petite cuillère de miel. Voilà, c'est ça mon quotidien. Merci. Merci
oui,
beaucoup.
Bah, ça va. T'es toujours là.
Ben oui, oui. Je suis toujours là pour toi. Et je resterai là toujours là pour toi, mais quand même, beaucoup de vêtements.
On peut passer la suite. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Manu et à Sauve. Poème sur l'amour et la mort.
Ah oui, c'est vrai.
Le fameux.
Un petit poème sur l'amour et la mort, sur la préparation de la semaine de Judy. Mais bisous à toi, Manon. Les amis, en parlant d'amour et de mort, on va. Bah, Yo-Yo, tu nous as préparé une petite liste non exhaustive de sujets sur le monde mortuaire.
Oui, parce que effectivement, bah. Après la fête d'Halloween, je me suis posé des questions sur les coutumes et les cultures vis-à-vis de la notion de la mort.
Ouais.
Et vous allez être servis. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le dernier. Le Manen en Indonésie. Ce sont du coup les catholiques et les protestants qui exhument les corps des défunts chaque année afin de les laver et les habiller pour leur demander une bonne récolte agricole.
Tu t'es là avec un grand sourire.
C'est ça.
Au Tibet aussi, en fait, on donne les morts pour les vautours. Mm. Donc, pour permettre à l'âme de se libérer et de monter vers les cieux célestes, là où ils ne peuvent pas les emmener, puisque le Tibet, c'est dans les grandes montagnes, les moines offrent aux vautours les dépouilles mortuaires. Donc, bon appétit.
Horrible.
Le Famadi Anna, ce sont les secondes funérailles malgaches. La tradition veut qu'une personne voie en rêve un mort de sa famille se plaindre du froid. Donc déjà, bah, bon courage pour voir la bonne personne. T'imagines, là, le mec n'est pas mort, tu rêves de lui.
Ah.
Comment tu fais? Du coup, le mort, il va être déterré et exposé sur la place centrale du village pour lui apporter de la chaleur et donc le revêtir confortablement.
Ah ouais,
ouais. Ça doit être joli à voir.
Chacun sa culture.
La mort chez les Inuits. Eh ben ça, sachez que le rituel mortuaire, il permet de programmer le jour de la mort.
Ah ouais?
Ouais. En gros, lorsqu'une personne devient trop fatiguée, etc., pour continuer de travailler et permettre au peuple de se nourrir, etc., en tout cas de participer aux tâches du quotidien, eh ben en fait, quand tu deviens un fardeau pour ta communauté, bah tu te suicides avec le soutien des tiens. Et tu pars tout simplement sur la banquise. Je sais pas s'ils sont nus ou pas, mais en tout cas, ils meurent de froid, pour de vrai.
Chacun sa culture!
Ça pourrait être un... Chacun sa couche.
Un slogan.
Dans les Sulawesi, les rites mortuaires, c'est 3 ans après la mort du défunt. Le corps, il est exhibé, déjà. Donc, dans son cercueil, au sein de la demeure familiale. Donc, ouais, tu le fais revenir. Et des animaux sont sacrifiés en son honneur. Bon, ça, c'est un peu plus soft, déjà.
Mmh. Ouais. Ça dépend.
En tout cas, ce que je peux vous dire sur les cérémonies funéraires, c'est que la crémation, elle est en hausse, si ça vous intéresse. Et si les pays très croyants optent encore pour l'inhumation, la crémation elle prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans les pays nordiques, figurez-vous. Et le nombre de crémations est également très important en Grande-Bretagne, où l'enterrement traditionnel, il est presque devenu une exception en fait. Sachez qu'au Japon, alors eux, ils n'ont pas choisi, c'est vraiment par manque de place, il rend quant à lui la crémation obligatoire. C'est comme les enfants, tu vois, c'est pareil. Ouais. Ils chiffrent tout là-bas, tu vois. Donc, l'urne contient les cendres. Elle est d'abord placée dans la maison familiale où il y a un prêtre bouddhiste qui fait une petite prière pour guider l'esprit. Et ensuite, il est enterré dans un cimetière.
D'accord, ok.
Voilà. Pour la Corée, les funérailles, elles sont organisées selon un rite. Selon un rite, donc en gros, concrètement, un devin choisit l'endroit où doit être enterré le corps. Encore une fois, par magie. Et c'est en observant les marques formées par une poignée de terre qu'il a achetée lui-même sur le cercueil qu'il sait où doit être installée la tombe. Et donc, il n'existe pas de cimetière en Corée, puisque c'est dû au hasard. Les sépultures, elles peuvent être placées en n'importe quel endroit, n'importe quel lieu.
Ah, c'est chaud.
Donc, si tu jettes ta poignée et qu'en fait, tu dois enterrer l'autre chez le voisin, il doit accepter, quoi.
Ah, et en plus, ils n'ont pas le choix. Ah
non, ouais. Non, je pense qu'il doit y avoir des trucs. Ils discutent forcément.
J'espère. Imagine, on déboule chez toi. Excusez-moi, on vient faire un trou.
Bah, en fait, désolé, c'est sur votre balcon qu'il doit être.
C'est ça.
Du coup, voilà. Et donc, enfin, tous les pays islamiques procèdent au même rite funéraire. Donc, c'est 24 heures après le décès. Le corps, il est enveloppé dans un linceul de coton blanc et déposé à même le sol dans une fosse, le visage tourné vers la Mecque.
Exactement.
Voilà, donc après que vous ayez fait votre choix, maintenant que vous avez toutes ces informations-là, donc déjà vous pourrez me dire où est-ce que vous irez vous faire enterrer, vous faire inhumer, tout ce que vous voulez.
T'as pas une adresse mail quand même pour
vous. Yo les mains sur Insta, toujours. Vous pouvez m'envoyer vos envies, etc. On verra ensemble, à votre convenance. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des malaises liés à des discussions sur la mort où vous vous êtes senti un peu démuni de discussion parce que c'est un sujet qui est un peu trop tabou, un peu trop compliqué à exprimer, etc. Que ce soit autant pour vous, si vous avez vécu un deuil ou un truc dur dans votre vie, que pour une personne qui aurait besoin d'un conseil ou d'un contact, d'une discussion.
Moi, j'ai eu des différents, enfin pas des différents, mais en termes de discussion, ça reprend ce que tu as dit. En fait, moi, je fais la pratique islamique pour les funérailles. Et on a eu un débat qui n'a pas abouti avec quelqu'un qui ne pratiquait pas cette manière sur du coup le respect de la personne, comment ça se passe, elle aurait aimé tel ou tel truc, et c'était un peu compliqué de se dire on n'arrive pas à avoir une conversation genre calme ou sérieuse.
Ah ouais.
À cause de croyances ou de savoir qu'on a, alors qu'en fait comme tu viens de l'expliquer, chacun fait comme il veut selon sa culture.
Complètement.
Je sais pas, après
et puis Et puis effectivement, peut-être qu'il y a aussi cette notion religieuse qui prend, qui est souvent en fait mise de côté quand il y a quelqu'un qui décède. Mmh. En fait, finalement, la religion là-dedans, elle permet un protocole. Et en fait, à partir du moment où t'es croyante, tu vas suivre ce protocole-là. Ouais, donc tu vas pas te poser de questions sur.
Je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres avis. Simon, tu peux prendre le micro.
Ouais. Pour revenir sur le manque de place, j'ai entendu dire que
c'est au Japon, c'est ça?
Oui, mais ça peut être même en France. Hein,
ouais,
ça peut être
même partout. En France, ouais.
Et apparemment, ça reste à vérifier, hein, tu vérifieras.
Ouais, ça marche.
C'est aussi par rapport à notre alimentation, nos corps, on dit dégénérés, pourrissent moins vite, quoi. Parce qu'on mange beaucoup de conservateurs, etc.
Ouais.
Et du coup, ce qui permet un non-turnover dans les cimetières, quoi.
Ouais. Ah ouais.
Ouais.
Mais c'est pas fait exprès, c'est juste une conséquence du fait qu'on mange beaucoup de conservateurs. Quoi.
C'est totalement une conséquence.
Ouais,
on met pas des conservateurs pour que ton corps résiste après la mort.
T'imagines?
Peut-être qu'il y a une religion comme ça. Mais
t'imagines en 3000, dans 1000 ans,
les
gens,
quoi,
les gens prennent des conservateurs pour se conserver, tu vois, au cas où. Ouais.
Okay, avec tout ce qu'on voit là. Quand tu le on refroidit ton corps.
Ouais, voilà, c'est pour la cryo. Attends, ouais, c'est quoi déjà ça?
La cryogénie.
C'est qui a acheté ça? C'est pas Zidane, c'est l'autre, un joueur de foot.
Thierry Henry.
C'est pas Thierry Henry.
Marcel Desailly. Je connais que les joueurs de foot de 98 personnes.
Celui qui a une cicatrice. Ribéry.
Ah,
Ribéry, il a acheté son truc de cryogénisation. Sachez-le.
Ok.
Donc il a une pièce chez lui. À tout moment, on se fait des glaçons là-bas.
Disons qu'en fait, il est en contact avec un laboratoire qui essaye de cryogéniser les gens. Donc dans lequel cas, Ribéry mourrait, son corps serait emporté dans cet espace dédié aux gens qui payent une fortune pour finir dans un tube vert plein de liquide bizarre.
Mais renaître sûrement parmi les extraterrestres.
Et peut-être dans un monde apocalyptique. Quelle joie!
Moi je rigole, le truc elle s'ouvre, il n'y a personne. Il est tout seul. Lui il est à Carrefour City. C'est tout.
N'importe quoi.
En vrai. Ce serait trop bien. Pardon.
Et du coup, toi, Péta, est-ce que, par exemple, t'as été en contact avec quelqu'un qui avait vécu un deuil et tu t'es senti un peu démunie quand il a fallu en parler?
Pas que je sache. Après, moi, je suis du genre à parler un peu franchement. Après, j'essaie d'être pédagogue, mais après, j'ai pas connu beaucoup de. Enfin, le deuil, je connais pas vraiment concrètement. Donc,
ok.
Je peux pas.
T'as jamais vécu
ou quelqu'un dans ton entourage?
Si, mais je.
On n'est pas du tout des forceurs avec
on
cette question.
Ouais, mais non, mais c'est pas.
Elle
vas-y,
est là,
Péta, dis-nous tout.
Non, je pense
c'est
que.
Je suis psycho.
Je pense que non, je crois que j'ai jamais été gênée, franchement.
Ok.
Ouais, du coup, je suis pas là.
Tant mieux, mais super.
Et puis,
mieux.
Je pense que ça dépend aussi. Par exemple, moi, je travaille avec des jeunes et avant les vacances, j'ai quelqu'un qui m'a dit en fait, je viens de perdre mon père. Mm. Et là, tu fais ok, vu que tu connais pas la personne. Là, ça devient compliqué de parler parce que, enfin voilà, moi je commence à lui parler, il me fait ah, et après il me fait ah non mais en fait je suis contente. Hein.
Ok.
Ah. D'accord. Ok. Et en fait je m'engouffre dans une conversation qui devait pas être faite avec moi et qui où j'avais pas du tout les compétences en fait pour réagir et t'es là tu fais bon bah.
Malaise.assistante d'éducation.
Ça tombe très bien parce que je vais te donner une astuce pour ça justement après. Mais d'abord je voudrais avoir ton avis, Tariq.
Non, la mort, moi je pense que depuis quelques...
Alors parle bien devant le micro, Tariq, s'il te plaît.
Là, c'est bon ?
Ouais.
Là, je trouve que c'est pas... En France, en tout cas, c'est plus un tabou. Tout le monde parle de la mort librement. Tout le monde parle de un peu des cultures, comme tu t'énonçais là quelques instants. Après, on a tous subi un deuil, mais après, ça fait partie de la vie. Hein. Mais...
Alors moi, quand je parle de tabou, je parle pas du tabou face à la mort.
Ah, d'accord.
Je te parle du tabou de discussion, de communication quand quelqu'un est décédé ou que tu vis un choc émotionnel.
Ouais, ouais, après, moi j'en ai eu des discussions, après on peut en débattre énormément, mais moi je respecte toutes les cultures, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec, par exemple, des personnes qui disent que, non, moi je préfère que mon corps soit dispersé dans la mer, parce que je me dis... C'est, enfin, déjà on fait attention à la nature, mais je me dis c'est dommage parce que nos corps va servir à la terre de toute façon, donc ça va un peu nourrir la terre, mais c'est tout. Mais voilà.
C'est chouette cette philosophie.
C'est sympa, c'est génial. Et personne me force.
Et moi je vais vous parler du coup d'un site qui existe pour en venir à ça justement, et qui me semble un peu utile parce que quand on veut porter une aide à quelqu'un ou bien juste comprendre ses propres émotions, il s'agit du coup du site lavillamortonenparle.fr. C'est gay, hein, cette chronique, elle est gay. Et du coup, c'est un site qui permet d'avoir des conseils sur des situations particulières. Par exemple, quelqu'un de votre entourage a perdu un proche, vous savez pas trop comment en parler, s'il faut en parler ou pas, il y a toujours ces doutes-là. Est-ce que si on en parle, elle va réagir comme ci, comme ça? Et en fait, ça permet de... selon l'âge et les situations, parce qu'en fait on parle de deuil, mais parfois il y a des deuils plus longs que d'autres, et il y en a notamment qui sont même avant la mort de la personne, quand on sait que la personne est en soins palliatifs, etc. Alors comment est-ce qu'on en parle de ces sujets-là, et comment est-ce qu'on envisage d'aider quelqu'un de la meilleure façon possible? Et ce site, en fait, il permet justement de proposer toutes sortes de conseils selon l'âge, la situation, ce qui se passe dans la vie de la personne. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que, comme tu disais, Juliette, nous qui faisons partie aussi des gens de l'éducation, et je pense qu'aussi tous les artistes font finalement partie de l'éducation d'une certaine manière, j'estime que c'est quand même important de savoir comment réagir sur ces sujets-là, quand on parle de ces sujets-là, évidemment.
Oui, et puis, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole gratuitement.
C'est pas en regardant Superman qu'après on va faire un débat là-dessus, mais je veux dire, ça peut être intéressant en tout cas de se sentir plus à l'aise dans l'art de traiter ces sujets un peu inconfortables.
Bah oui, en plus c'est hyper intéressant d'en parler là, parce que ça peut arriver à tout moment, à tout âge pour chacun. Donc de toute façon, tu le disais, Tariq, il y a moins de tabous heureusement en ce moment, donc c'est bien qu'on puisse en parler et qu'on puisse savoir où s'orienter. Rappelle-nous le site.
C'est lavillamortonenparle.fr.
La
tout
vie,
attaché.
La mort, on en parle. Point. Et faire. Super, merci beaucoup Yo-Yo. Dans quelques minutes les amis, on va parler cinéma, on va parler maîtrise en scène, mettre en scène, météo. On va parler cinéma, moi c'est plus simple. Et juste avant, une petite pause musicale que je n'ai pas lancée. Hop, si, voilà, elle est là. Une petite pause musicale, on écoute Jolene de Showman.
De Dolly Parton.
Et on revient dans un instant. A tout de suite sur Radio G.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
De retour sur Radio G sur le 101.5 avec toute l'équipe. Péta, comment ça va? Est-ce que ça va toujours, pardon?
Oui, oui, ça va super, super.
Yo-Yo?
Oui.
Oui, Juliette?
Oui, ça va.
Et nos invités, Simon et Tariq, comment ça va?
Hyper bien.
Oui.
Un oui solennel. On va pouvoir échanger un peu sur le métier de réalisateur, sur le cinéma. Tout d'abord, Tariq et Simon, c'est plus peut-être pour Tariq. Simon, t'as déjà fait un peu de réalisation ou pas trop?
Non.
Non, pas trop, ok.
Non,
mais en tout cas,
non.
Si tu veux ajouter des éléments durant l'interview sur la réalisation, il n'y a aucun souci. Tariq, pour éviter les mélanges entre les différents métiers du cinéma, comme acteur, monteur, cadreur, etc., est-ce que tu peux nous définir en quelques mots le métier de réalisateur, séparément des autres?
Oula, alors il y a beaucoup de trucs à dire.
Vous avez 4 heures.
Pour faire simple, le métier de réalisateur, il met en image une histoire pour que les gens puissent comprendre l'histoire. En gros, c'est ça.
Donc c'est un peu le chef d'orchestre?
C'est ça.
Ouais.
C'est lui qui gère un peu toutes les équipes parce qu'en fait, il fait un gros travail en amont. Souvent, on dit que le réalisateur, il est posé sur sa chaise, il fout rien du tout, alors qu'il y a 6 mois de taf en amont.
Ouais.
C'est énorme, mais vraiment, c'est énorme. Et puis après, c'est lui qui gère un peu toutes ses équipes à la fin.
Okay.
Donc, c'est ça, c'est exactement okay. chef d'orchestre.
Ouais. Simon, tu voulais rajouter un truc?
C'est rare quand il reste posé dans sa chaise.
Alors, oui, j'ai pas entendu. C'est rare que tu restes posé dans ta chaise.
Ouais, non, mais je l'ai jamais fait. Donc,
là, c'est, oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai que c'est de l'image des.
Manque de budget, on n'a pas de chaise. Donc.
On a un tabouret, si tu veux.
Donc, oui, en fait, tu nous expliques que voilà, il y a une première partie de réalisation seule, et après, du coup, il y a une équipe de tournage. Donc là, tu t'entoures de qui à peu près dans une équipe de tournage?
Alors, tout dépendra en fait du budget qu'a la production, parce que avant qu'il y ait un réal, il y a une production.
Ouais,
donc
ça.
Forcément, celui qui veut un film, il va te dire, bah écoute, il me faut un film sur la mort. du coup, il va te dire, bah tiens, j'ai 10 000 euros de budget. Il va choisir un réalisateur, il va regarder le réalisateur sur quel film il a réalisé, quels sont un peu ses penchants, est-ce qu'il adore la mort, est-ce qu'il n'aime pas la mort. Il va avoir son côté esthétique, artistique, et puis à ce moment-là, dès que c'est bon, lui, le réal, il va chercher, c'est plus ça aussi la prod qui cherche un peu aussi l'équipe, mais le réal, il va souvent travailler avec son chef-op, c'est-à-dire son cadreur.
Chef-op pour chef-opérateur.
Chef-opérateur, okay. C'est ça. Donc c'est lui qui va cadrer, qui va gérer la lumière, qui va valider la lumière. Et puis voilà, donc après, il faut un ingé son. En fait, on peut réaliser un film avec 20 000 personnes comme on peut réaliser un film avec 3 personnes. Ce qu'il faut, le minimum, c'est un réal, un cadreur, un ingé son et celui qui s'occupe de la lumière.
Ok.
Réal, cadreur, ingé son, lumière.
C'est comme une asso, il faut le minimum. Ouais. Un président, un secrétaire,
ouais,
c'est là c'est... Voilà.
Oui, c'est ça.
Ouais, j'y pensais. Ouais. Sur ton site, donc tarikbensala.fr, on a pu voir dans ta filmographie des films dits à huis clos ou encore en trilogie. Trilogie, on a peut-être déjà entendu parler dans le folklore du cinéma. Mais en tout cas, pour les deux termes, pareil, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre ces deux-là et un film classique? Entre un film classique, un huis clos et puis une trilogie.
Trilogie 3.
Du ouais. coup, ça, 3. Ça va, on savait à peu près.
Non, mais peut-être qu'il y avait des éléments
pour les gens
en plus.
Qui savaient pas.
Alors, par rapport à mes réalisations, où tu parles de termes de trilogie, huis clos.
Oui, voilà, selon, là, par rapport aux termes. Ouais.
Alors, ça, c'est vraiment c'est des manières de nommer des films, puisque la trilogie concerne 3 films. Et l'autre, huis clos, c'était. C'est un projet qu'on a mené avec Magali. Hein, je lui fais un petit big up. C'est elle qui est venue me voir justement. Donc là, elle avait vu mes films. Elle m'a dit, écoute, j'ai envie de réaliser un film sur les violences conjugales. Donc du coup, alors moi, j'aime pas ce terme-là, mais je suis un peu un réalisateur engagé. C'est-à-dire que je vais souvent filmer tout ce qui est social. Mettre en lumière des personnes qu'on voit pas forcément à l'écran, raconter des histoires vraies et faire jouer des personnes. Qui jouent leur propre rôle, et c'est pour ça que je bosse beaucoup avec des personnes en situation de handicap. Alors c'est compliqué, mais c'est bien plus compliqué que des fois avec des comédiens.
Dit-il en pointant Simon.
On croit souvent que le handicap c'est très très compliqué, mais ça l'est de la même manière avec des comédiens lambda. Et puis voilà, je me suis dirigé exprès parce que c'est un truc qui me passionnait énormément. Il y a vraiment le côté humain et le côté sincère des personnes. Et donc du coup, le huis clos, c'est vraiment sur les violences conjugales. Donc Magali qui a voulu raconter quelque chose, donc on l'a mis en image sur deux petits formats, il devait y en avoir trois, du coup ça restait une trilogie. Mais du coup on s'est dit on va l'appeler huis clos parce que bah voilà, toute l'histoire des violences conjugales, on le sait que ça c'est malheureusement huis clos. Et puis trilogie, bah comme le nom l'indique, hein, on est sur trois films. Là l'idée c'est que quand j'ai fait Chamallow en 2013, l'idée c'était de faire un premier film avec l'association que j'avais créée, qui n'existe plus, Andy Men, donc Andy de handicapé et Men de Maine-et-Loire. Et en fait ça a hyper bien marché dans le système avec l'éducation nationale. Ils l'ont relayé dans leur site qui s'appelle EduSchool. Et du coup on a eu une forte demande par plein de structures, et on s'est dit ah bah tiens, on a fait jouer Bruno déficience mentale, on a parlé de la déficience mentale, on s'est dit bah tiens, on va parler de la trisomie. Donc on va jouer quelqu'un qui enfin une personne trisomique, une vraie personne. Et puis le troisième qui était le plus, alors paradoxalement, compliqué à traiter, à dire, à mettre en image, mais magnifiquement à faire, parce que l'autisme c'est un truc qui me plaît de plus en plus. On pourra en parler tout à l'heure, mais c'est là où je me suis vraiment dirigé, pas par pur choix mais par hasard. Et donc on a parlé de l'autisme, donc on s'est dit ça. Alors voilà, on pouvait traiter plein de choses du handicap, hein, mais on s'est dit voilà, les trois handicaps un peu plus larges.
Ouais. Et du coup, du coup, tu travailles.
Eric.
Du coup, tu travailles avec différents publics. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être acteur? Du coup, qu'est-ce que tu penses des écoles d'acting un peu? Parce que voilà, tu prends du coup des gens qui sont pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a, Simon?
Juste, il a pas dit ça. Il a dit c'est aussi dur de gérer un comédien peut-être qu'un autiste.
Ah oui, je sais, non, je dis
pas
ça.
En termes de résultats. Je défends quand même les comédiens. Un film avec des comédiens, il y a aussi une valeur ajoutée de connaissance du cinéma. Le comédien, il connaît,
ouais, c'est ça.
Il connaît
le métier,
il connaît l'image, etc. Après, je dis pas, on peut peut-être faire un film beaucoup plus beau, beaucoup plus artistique avec des non-comédiens. Enfin, mais c'est moins une valeur sûre parce que t'as moins de, tu mets pas toutes les billes en main autant que quand tu travailles avec des gens qui connaissent l'image, etc. Que je défende un petit peu les gens qui travaillent.
Oui, non, bien sûr, c'est sûr.
Totalement. Je pense que la direction de Camille.
De la question.
Je vais appeler Camille. De Camille,
oui, voilà,
c'était
vas-y.
Autre chose.
Oui, non, c'était. En fait, c'était dans le sens où tu prends des gens qui ne sont pas forcément comédiens, mais qui, du coup, vivent le truc pour de vrai. C'est un parti pris ou est-ce que tu pourrais prendre, par exemple, Simon pour jouer un trisomique?
Alors justement, en fait, ça dépend du projet. Moi, je me dis souvent que y a des comédiens amateurs qui jouent, ils sont bien plus bons que des comédiens qui ont joué 10 ans dans des salles. Voilà, c'est vraiment un parti pris. Je me perds là sur ta question.
Par rapport à ce que tu veux raconter.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, on m'a donné la chance quand j'ai réalisé, et je me dis souvent il y a des comédiens qui sont pas comédiens mais qui veulent jouer. Donc à partir du moment où le feeling il passe, où ils sont à l'aise face à la caméra, même s'il y a un travail à faire, on les laisse en fait jouer parce que on vient au-delà de la réalisation, on vient leur faire découvrir les métiers du cinéma. Donc la culture, tout ça. Donc c'est hyper important pour moi, parce que moi quand je réalise depuis 8 ans. Quand j'ai commencé en tant que cadreur, je suis pas devenu réel du jour au lendemain. Quand j'ai commencé en tant que cadreur, on m'a donné cette chance-là en me disant viens découvrir, tu vas voir, ça va être sympa. À la base, je devais être prédestiné au dessin, mais on m'a dit que j'étais nul. Du coup, le système scolaire m'a dit que j'étais nul.
Ah oui, on connaît.
Voilà. Et puis du coup, bah, je me suis dit ok, je suis nul. Je vais aller au cinéma.
Voilà.
Et puis voilà. Après, c'était vraiment un pur hasard d'être dans la réalisation. Et puis après, ouais, c'est vraiment un parti pris. Et puis tu parlais d'école d'acting, évidemment il y a des très très bons comédiens, et c'est hyper important dans un film d'avoir peut-être un pourcentage d'amateurs et à côté des professionnels,
un mélange, ouais.
D'où l'école Plus belle la vie.
Okay,
il y en a qui sont nuls et d'autres qui sont très très bons, et ça vient un peu équilibrer ton histoire.
Okay.
Parce que les comédiens, tu peux te reposer dessus, parce que tu disais Simon, il y a déjà une base acquise où tu dis ok, là j'ai juste des directives à donner. Et du coup, est-ce que toi tu es conscient que ça va prendre un peu plus de temps avec des amateurs, et tu l'inclus dans ton temps de tournage?
Ouais, alors ouais, toujours, parce que quand on a réalisé Chamallow, c'était que des amateurs. Ouais, c'était que des amateurs. Et honnêtement, c'était sur la tous pas aussi toi aussi.
Non, mais franchement, amateur, ça me fait
c'est... Non, parce que c'est quand je dis amateur, c'est qu'ils ont... ils connaissent pas le métier du de comédien. Et là, j'ai eu que des échecs. C'est-à-dire que les comédiens, ils s'en battaient les reins de tout, ils venaient en retard. Mais c'était catastrophique. Et du coup, c'était très bien pour moi parce que du coup, ça me formait en fait. J'ai dit OK. Donc ils m'ont fait la misère. On va faire le deuxième. On a pris peut-être une dizaine du premier film. Les autres, on les a pas pris parce que c'était pas possible. Un comédien, quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Et puis, qui dit retard, y a toute une organisation derrière qu'on a préparée depuis des mois et des mois. Et quand les mecs, ils viennent un peu les bras croisés comme ça, ils disent « Ouais, mais je suis pas réveillé ». Tu dis non, mais putain, faut que j'arrête de prendre des mecs amateurs parce que.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà.
Mais parce que c'était des amateurs, mais il n'y a pas eu un casting quand même de.
Toujours ?
Oui, si, ok.
C'est comme les entretiens, au début c'est tout beau, tout rose.
Et après,
dès que tu signes les contrats, le mec, voilà, c'est un peu la Java.
Et c'était trop cool. Merci encore une fois, Tariq, d'être avec nous. Ça fait super plaisir. Tu vas pouvoir nous parler de ton dernier film dans lequel j'ai tourné. Et de toute façon, fallait le dire. Et dont on peut voir déjà la bande-annonce sur les réseaux. Ça s'appelle L'avenir m'appartient. Mais avant ça, on écoute Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello. À tout de suite sur Radio G.
Le salon de Judy sur Radio G, on espère que vous passez toujours un bon moment. Toujours avec Juliette, Yo-Yo, Péta, moi, Fadi, Tariq Bensala et Simon. Simonetti Loretti.
Simonetti Loretti.
Simon, justement, on n'a pas eu le temps de s'intéresser à toi. Alors, en tant que metteur en scène, tu es sur quel projet en ce moment? Et puis, est-ce que tu peux nous lister un ou deux films que tu as mis en scène récemment? Ou peut-être pas l'année dernière, puisque Covid, mais peut-être avant.
En ce moment, je suis sur Alice au Pays des Merveilles. Enfin, on adapte Alice au Pays des Merveilles avec une danseuse.
Ah!
Donc voilà, ça sera un jeune public. On a travaillé au théâtre du champ de bataille pendant une semaine et donc on va continuer la création. Ça met du temps. Ça sortira sûrement dans un an, je pense.
Donc avec un jeune public, c'est quel âge à peu près?
Justement, là on est en création et. Moi je miserais sur de 7-10 ans, mais la danseuse plutôt plus jeune encore.
Et donc l'idée c'est de créer un spectacle avec eux pour qu'ils soient prêts d'ici un an.
Un an?
Avec ça? Un spectacle? Un film?
Non.
Un spectacle. On est sur du théâtre.
Ok.
Et alors, attends, parce que jeune public, ça veut pas dire avec des enfants, ça veut dire pour des enfants.
Voilà, exact.
Ah,
pardon. C'est moi qui fais des raccourcis.
Parce que je comprenais pas.
C'est parce que quand il a dit avec eux, je me suis dit, il croit que les enfants jouent dedans. Non, c'est pas ça. C'est pour.
C'est une grande enfant.
C'est ça.
Une grande danseuse.
Ok, donc c'est la danseuse qui fait le spectacle.
C'est elle qui est seule en scène pendant le spectacle. Okay. Et il y a toute une scénographie autour. Et moi, j'essaye d'être œil extérieur et de donner des petites indications.
En fait, Tariq et toi, vous avez le même métier, mais pas dans le même domaine.
si j'ai bien compris. Parce que la même passion.
Eric et Ramzy, je vais garder cette phrase.
Et pas le même maillot.
Ouais, c'est une histoire par castor.
Parce que toi, Tariq, tu orchestres donc une équipe sur un plateau de tournage, et toi, Simon, tu orchestres du coup une équipe, mais sur une scène de théâtre.
C'est un peu ça, ouais. Le réalisateur au théâtre, ça serait le metteur en scène.
Donc ce serait toi.
Oui. Voilà. Et du coup, il y a des metteurs en scène au cinéma, et du coup, c'est pas le même. Probablement parce que les équipes de cinéma sont. C'est monstrueux, une équipe de cinéma, c'est plus de techniciens, même s'il y a des spectacles de théâtre où il y a énormément de techniciens. Mais en tout cas, le cinéma exige des metteurs en scène pour mettre en scène.
Pour soulager le réel aussi.
Et pour soulager le réel, oui. Et comme au théâtre, c'est-à-dire le metteur en scène ou le réalisateur. Il peut y avoir plusieurs metteurs en scène ou plusieurs réalisateurs, et ils font pas tous exactement le métier de la même façon, quoi. Il y a des metteurs en scène ou des réalisateurs qui sont beaucoup dans la direction d'acteurs. Il y en a qui sont beaucoup au cinéma dans le cadre, ou au théâtre dans la scénographie.
Ah oui, donc dans un seul métier, il peut y avoir énormément de casquettes en plus.
Ouais, en fonction de la spécialité du gars, quoi.
Et de la sensibilité aussi, je me permets d'intervenir.
Non, vas-y, moi je suis, autour de cette table, je suis le seul qui ne suis pas dans l'artistique, donc je n'ai pas beaucoup d'éléments à dire.
Oui, bah juste, je voulais rajouter juste de la sensibilité aussi qui est différente pour chaque personne, c'est ce qui rend unique un comédien, un réalisateur particulièrement.
Une personne, quoi.
Voilà. Un genre.
C'est ça. Un genre.
Du coup, on vous le disait juste avant, Tariq, tu vas sortir un nouveau film qui s'appelle L'Avenir m'appartient. Oh là là, j'ai failli faire une faute. On peut voir déjà la bande-annonce sur ton réseau, et en fait maintenant sur ouais, c'est ça exactement, sur YouTube aussi, enfin sur plein de. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça va parler?
Ça parle de la mort.
Arrête.
C'est le
mais non, franchement, si après cette émission de radio tu me fais pas un film sur la mort, je comprends pas, parce que j'ai l'impression que ça te bouscule quand même. Ouais,
elle a passé une commande comme sur Uber Eats.
non, je me permettrai pas.
Non, ça parle de quoi en fait? On parle de la réussite. Déjà avant, juste parler du projet, peut-être remercier le lycée Henri Dunant, parce que c'est Emmanuel qui est à l'origine de ce projet. Emmanuel Fougerousse.
Fougerousse, ouais, c'est ça.
Sans le U. Sans deux S, juste un S. C'est elle qui a l'initiative de ce projet. Elle avait vu un peu ce que je réalisais. Du coup, elle m'avait parlé de son projet et que j'ai trouvé ça vraiment hyper bien de parler de l'avenir des jeunes en ce moment. Surtout avec le Covid, ça devient un peu. Ça devient de plus en plus complexe. Et là, le film, en fait, parle de cinq, six jeunes qui sont dans le même établissement, mais qui ne se connaissent pas et qui, par leurs histoires, on essaye de comprendre un peu leur cheminement pour. Réussir le bac. Mmh. Donc en gros c'est ça. Donc qui va pas l'avoir. Ça va pas venir le voir le 26 novembre.
Mais du coup c'est vraiment un film. C'est pas un documentaire ou c'est vraiment une
c'est
fiction.
Un court métrage qui fait 40 minutes. Ouais.
Ok.
C'est ça.
Bah, et puis ouais c'est ça. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'as pas donc il y a quelques comédiens professionnels, mais il y a surtout par exemple moi j'ai eu la chance d'y jouer dedans parce que je travaillais. À l'époque dans ce lycée, mais c'est surtout des vrais élèves de ce lycée-là. Et franchement, c'est un vrai projet en fait de classe entre guillemets qu'une prof a mené. Et franchement, le projet en lui-même est vraiment fantastique. Ils ont tourné dans les locaux, dans le lycée, avec les profs qui. Enfin, il y a. Oh là, je me perds. Il y a pas que les élèves, il y a aussi les profs, il y a le CPE, il y a la directrice du lycée qui joue aussi un rôle important dans le film. Enfin, voilà, tout le lycée a vraiment fait une bulle.
C'est cool.
Et lors d'une petite semaine, il y a eu un tournage dans le lycée. Franchement, c'était vraiment bien.
Et vous êtes tous les trois dans ce projet, Juliette, Simon et Tariq ?
Oui, parce que du coup, Tariq était réalisateur et Simon, metteur en scène. Et du coup, pour le coup, on voit vraiment bien la différence parce que Simon, tu t'occupais surtout des comédiens.
Ouais, enfin, on était deux metteurs en scène sur le projet. Il y avait Didier, son nom
Didier Buzo.
C'est ça.
Je voulais pas écorcher. qui du coup a travaillé parce que moi j'étais là que pendant le tournage. Lui il a travaillé en amont pour préparer les élèves du coup qui sont amateurs, leur donner des petits tips de jeu quoi. Et après pendant le tournage. Du coup, on était deux à. Parce que le metteur en scène, c'est pas uniquement faire la direction d'acteur. Déjà, le réal peut parfois faire la direction d'acteur. C'est aussi gérer, par exemple, s'il y a des figurants, faire des top figurations. C'est vraiment faire vivre aussi le cadre, quoi. Mm. Faire vivre ce qui est à l'intérieur du cadre. Donc voilà, c'était ça le petit job.
Voilà. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est comme tu disais, en fait, on a vu que à peu près personne des élèves ou des profs avait fait du théâtre ou quelque chose dans leur vie. Et vraiment, ça a donné... Enfin, moi, j'ai pas vu le résultat final, mais j'étais là et je voyais, j'étais là, bah. Oui, moi j'ai fait du théâtre, mais comparé à l'élève qui joue là, il y a pas de différence, quoi. Franchement, enfin c'est et genre même moi par exemple, j'ai l'impression que j'avais cette pression entre guillemets de j'ai fait du théâtre et tout, donc ok je suis. Alors que la personne qui était en face jouait genre 15 000 fois mieux, alors qu'elle avait jamais fait de théâtre, et tu dis waouh, tu peux trouver des petites pépites comme ça, c'était trop... Enfin moi j'ai trouvé le tournage trop beau ouais, trop et les élèves qui jouent et tu dis waouh.
Ah bah
c'est fou quoi.
C'est comme tu disais tout à l'heure, l'idée du projet, pour qu'il soit vraiment concret, il faut qu'il soit réaliste jusqu'au bout. Mmh. Et avec Emmanuel, on s'est dit, bah non, on va pas aller chercher des comédiens, on va faire un casting 100% lycée. Alors évidemment, on a appris 2-3 comédiens, peu professionnels, mais tout le reste, c'est que des amateurs. Et franchement, ils sont très très bons.
Oh, c'est fou. Hein.
C'est vraiment du gros niveau. Et tout le monde a respecté le planning parce que c'était quand même 4 jours de tournage intense. Mmh. On a tourné avec 2 caméras. Ouais, c'était très intense. Franchement, un 40 minutes en 4 jours, c'est impossible.
C'est impossible.
C'est impossible. On serait les Chinois des courts-métrages. Vraiment, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais là, c'est pas possible. Donc, c'était vraiment des bons souvenirs. Et puis après, bah, le résultat, le 26 novembre.
C'est ce qu'on allait dire. Ça sort donc le 26. Enfin, ça sort. Il y a une avant-première le 26 novembre au Gaumont-Pâté. Vous pouvez déjà prendre vos places. Moi, j'ai pris les miennes, j'en ai plein.
Ah, du coup, t'en as une pour moi ?
Ouais, j'en ai une.
Pardon.
J'en ai une pour toi. Et justement, ça, petite dernière question avant de passer à la suite. Ça sort en avant-première et pas en projection classique. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une suite après pour le film ou est-ce que juste c'est prévu en avant-première et après. Ciao le
alors là pour être sincère quand on a fait le film avec Emmanuel, elle a quand même récupéré beaucoup d'argent pour un court métrage. Quand je dis beaucoup, c'est dérisoire, hein, parce qu'un court métrage, le prix réel d'un court métrage, c'est ça peut être à 50, 60, 70 000. Là on l'a budgété à 25 000 euros, donc c'est vraiment que dalle. Là vraiment le but du projet, c'est qu'on s'est dit on fait un film et ce qu'on va en faire, c'est déjà le montrer à un maximum d'établissements, parce qu'on est sur une thématique qui est le bac. On s'en fout de passer, on va le passer dans des festivals. Qu'on ait des prix ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est peut-être que les jeunes de maintenant puissent se reconnaître sur les personnages qu'on a mis en avant dans ce film. Donc là, il y a une avant-première. On va voir ce que ça va donner, si le public va adhérer ou pas, si le message il est clair, si ça passe bien. Je crois que Camille meurt à la fin.
Arrête.
Ouais, je crois qu'elle
meurt. Il faut le dire, ouais. Il m'appelle Camille parce que c'est mon rôle dans le film.
La mort est partout.
Non.
Non, voilà. Déjà, il y a l'avant-première. On voit ce que ça donne et puis on va voir un petit peu les réactions des gens. On a hâte.
Oh, j'ai trop hâte.
Les filles, vous avez eu le temps de voir la bande-annonce ou pas encore, Péta ?
Ouais, moi j'ai regardé la bande-annonce, puis je trouve que même pédagogiquement c'est hyper honorable et franchement le projet est vraiment hyper chouette. Les valeurs qui sont dedans, moi elles me touchent beaucoup et je les trouve vraiment bien.
Péta, elle a acheté 4 places.
C'est une petite larme, vous avez...
Rattrape ta larme, j'avoue.
J'aime bien ce mot honorable. Mmh. C'est gentil.
Il sera gardé. Merci beaucoup les
Ah moi du coup j'ai pas le droit de dire ce que je pense.
Ah oui pardon, excuse-moi. Pardon, mais si tu l'as vu aussi Yo-Yo.
Mais oui, je l'ai vu. Ouais, la mort, du coup. Je trouve ça trop cool en vrai. Bravo, en vrai c'est un beau projet. Et puis faire revenir un peu les élèves vers des projets comme ça, c'est chouette. Parce qu'ils ont rarement l'occasion de faire ça. Oh oui, donc c'est top.
On a juste pour info, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, on a voulu aussi mettre en avant le lycée et Mon Plaisir, parce que Mon Plaisir se reconstruit.
Oui.
Et là, on voulait faire le parallèle avec Emmanuel, surtout Emmanuel, sur cet aspect-là, le parallèle entre la construction et la déconstruction des jeunes du quartier. Oui. Donc le parallèle était nickel. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait au bon moment. On a tourné en drone avec les autorisations du chantier qui est à Mon Plaisir, parce que c'était hyper
hyper important, au-delà du film, de montrer un peu une réalité qu'il y a dans les quartiers et dans les lycées. Mmh. Parce que le lycée est quand même implanté dans, dans une cité.
Mmh. Oui.
Donc,
oui,
et non, on tient aussi à remercier quand même les habitants de Montplaisir parce qu'ils nous ont vraiment aidés, accompagnés pendant le tournage. Donc, ils sont passés à côté, ils nous ont regardé, ils ont posé plein de questions. On va les inviter pour l'avant-première. Donc, c'est cool. Oh, merci à vous.
Donc, un gros merci donc, au lycée Henri Dunant, au quartier de Montplaisir et. Et ben vous, l'équipe technique de tournage. Simon, Tariq, vous restez avec nous pour la fin de l'émission. Merci à tous, à vous cinq, on est beaucoup, c'est cool, pour ce temps d'échange et de débat. Si vous voulez réagir ou même si vous-même vous avez créé des projets de films indépendants, pensez à nous envoyer des petits liens sur Instagram, @chez-judy ou sur le site radio-g.fr à la rubrique Dans le salon de Judy. On rappelle, Tariq, ton site tarikbensala.fr pour aller voir tes projets, tes films. Quand on grandit, les amis, on dit toujours qu'on veut rester enfant et un beau jour, pouf, on devient adulte sans le savoir. Mais ce soir, et grâce à toi, Péta, on va enfin savoir quand est-ce qu'on devient un adulte. Ou pas, je sais pas trop.
Justement, c'est pas clair. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je trouve qu'à 21 ans, je suis à un âge traître puisque je sais jamais si je suis vraiment une adulte. J'ai encore tendance à vouloir dire quand je serai grande, je serai. Je sais pas pourquoi j'utilise du futur alors que je devrais totalement conjuguer cette phrase au présent. Bon, après, je suis 1m50, donc ça aide pas. Puis même, un des magasins préférés, ça reste la grande récré, et vous m'avez jamais vu jouer avec mes petits cousins, où des fois, on se demande mais qui garde qui. A contrario, je suis capable de me gérer toute seule, donc de me faire à manger, de rentrer toute seule, d'avoir un travail alimentaire pour subvenir à mes besoins, d'avoir des orgasmes, enfin, des trucs super anodins. Mais j'ai quand même essayé d'analyser certaines situations. Parce qu'il y a 2 mois environ, j'étais au téléphone avec une dame de EDF. Donc j'ai quand même géré mes papiers toute seule. Donc à mon avis, c'est assez adulte ça. Elle m'a posé une question simple. J'ai répondu basique. Non, c'est faux. Elle m'a donc demandé « Mais êtes-vous étudiante ou active ?» Alors moi, je lui réponds « Bon, pour être honnête, moi, je suis plutôt active. » Après, c'est vrai que ça dépend, parce que des fois, être passive, c'est un truc que ça m'intéresse moins. Mais pourquoi je... Donc, concrètement, les détails, c'est... Alors non, madame, quand je dis femme active, c'est est-ce que vous travaillez ? Oh, mais moi, j'avais pas... Ah, je suis une femme active, oui. Et là, j'ai compris que mon taux de maturité était proche de 2 et mon taux de bon sens de moins 2. Il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire, j'ai eu des cadeaux, et notamment un vase, du vin, de la vaisselle et un circuit Mario. Donc concrètement, il est énorme puisqu'il prend 1/4 de mon salon et pour être honnête, je l'adore. Après, j'étais pas capable de répondre à la question « Est-ce une bonne nouvelle d'avoir à 21 ans un cadeau comme celui-ci » Et puis je me suis dit « Fuck, j'en ai absolument rien à foutre. » À mon avis, je suis vite fait une adulte, mais pas trop. Honnêtement, ça a l'air chiant d'être adulte, mais d'un autre côté, ça peut être pratique. Donc, définition de « adulte » de petits points, qui est parvenu au terme de son développement. Bon, j'ai l'impression que je suis née en salamèche et qu'aujourd'hui, je suis Dracaufeu. Donc, en théorie, je suis au terme de mon développement depuis la 4e, mais bon, ça m'étonnerait que je sois adulte depuis mes 14 ans. Mais je suis une sorte de physique de Dracaufeu, mais avec une demi-mentalité de salamèche. Sympa.
Si vous vous identifiez à ça, en tout cas, le Pokémon, c'est vachement bien trouvé. Eh bien, les amis, c'est sur ce programme et sur cette réponse à cette magnifique question qu'on va vous souhaiter une bonne fin de soirée.
Péta, bonne soirée à toi. On rappelle l'écriture de ton spectacle Appelez-moi Péta et ton spectacle Long Parlez-moi d'eux que tu joueras
le 25 novembre.
C'est noté. Yo-yo, bien soirée. Bien soirée à Dan Bissimen. On vient de le dire, mais enfin, on l'a dit en début d'émission, mais on le rappelle, tu joues je peux pas le redire, donc on le redit pas, mais prochain spectacle en approche.
Mais je joue très bientôt,
pour Ganivelle.
Tariq et Simon, c'était un super plaisir de vous recevoir dans le salon de Judy.
Merci à vous aussi.
On rappelle donc également donc que tu es réalisateur, Tariq, qu'on retrouve ton travail sur ton compte Instagram tariq-ben-sala et sur ton site tariqbensala.fr. L'avant-première de ton prochain film L'avenir m'appartient est le 26 novembre et les places sont en vente.
Simon, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou est-ce qu'on peut aller te voir sur Instagram?
Ouais, carrément. Mon Instagram, c'est Laurety Simon, tout attaché. L-A-U-R-E-T-I Simon, et vous pouvez foncer voir le film de Tariq. J'ai fait un peu de travail dedans. Donc.
C'est noté.
Génial.
Et enfin, merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien et d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, on retrouve l'émission Tandem avec Nathalie. Et dans quelques instants, c'est la soirée électro sur Radio G. Pour le salon de Judy, vous pouvez retrouver toutes les dernières émissions en podcast sur le site de Radio G à la rubrique Salon de Judy. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. Bisous.
Bisous. Ciao.